Voilà, il y a, s'il y a des questions dans la salle, c'est bien.
Merci beaucoup. C'était intéressant. Et moi, j'avais juste deux questions. Une première sur les cérémonies de naturalisation, parce que tu précisais en introduction que tu as fait ton terrain en partie dans une mairie de gauche plurielle. Mm-hmm. Est-ce que si tu avais observé ces cérémonies dans des mairies de droite, ça aurait été autre chose? Et du coup, en quoi la couleur politique a une influence sur la manière dont on conduit ces cérémonies-là? Plus largement, du coup, sur... Alors, j'ai pas très bien compris quand est-ce que tu avais fait ton terrain, mais du coup, est-ce que tu as vu l'arrivée de Sarkozy, et du coup, changement de dynamique ou pas, et du coup, quelles sont les continuités? Et puis, une deuxième question très rapide, et là, peut-être pour reprendre... il n'y a pas très longtemps, une thèse a été soutenue au LAMES, de Rachida Brahim, et du coup, pour reprendre un petit peu son idée sur... la question de la mésentente entre une institution et une république qui refuse d'entendre des dénonciations de violences faites par des militants. Moi, j'avais envie de savoir comment ton travail il est pris dans le cadre de l'institution de la recherche, dans l'ESR, comment ça se passe, les débats...
Ça commence.
Ben, oui, mais donc du coup, on est au début, on parlait de gens qui commencent à discuter de la racialisation. Très souvent, c'est des chercheurs qui ont des profils, on va dire, particuliers, à qui hop, on fait un lien entre ce sur quoi ils travaillent et qui ils sont, etc. Chose qu'on a retrouvée d'ailleurs dans les études de genre. Je pense qu'on a eu exactement le même processus. Mais donc, du coup, voilà, pour savoir un peu ton expérience. Merci.
Merci. On prend plusieurs questions, je réponds à chaque fois.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la foulée ou... Oui.
Vas-y. Ouais, merci vraiment pour cet exposé fort intéressant qui résonne avec plein de débats qu'on a eu dans les années précédentes, hein, avec la vie de Marwan Mohamed, il y a deux ans, avec la thèse de Rachida Brahim, et il y a fort longtemps avec la venue de Valérie Salapala qui nous avait parlé des questions de discrimination dans l'action au logement. Donc, si bien, j'avais une question méthodologique pour en savoir un peu plus. Et une sur la question l'anonymat dont tu as parlé, l'anonymat du lieu d'enquête. Donc la première sur le terrain, je voulais savoir, j'ai pas bien compris donc l'articulation, disons le terrain notamment en termes d'entretien que tu as pu faire ou pas, avec des fonctionnaires des administrations ou dont les ministères, par rapport au travail d'enquête que tu as fait plutôt par le bas avec des opérateurs au guichet. Et avec du public, des politiques publiques, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, alors, sous l'anonymat, la question d'anonymiser une ville en banlieue parisienne, ça me crée un peu quelques problèmes, quelque sorte. Je vous dis, mais est-ce qu'il n'y a aucun effet de lieu sur ce processus? À la fois de racialisation, à la fois de mise en compte par l'institution de ces problématiques. Est-ce que faire une enquête en banlieue parisienne, c'est forcément représentatif de toutes les réalités? Est-ce que tu as pensé à un moment donné, dans une première phase de la thèse, de dire « Bon, je vais peut-être prendre un terrain principal et un ou deux autres annexes pour diversifier ». Je ne suis pas sûr, par exemple, si on réfléchit sur Marseille, que les choses se posent exactement tout le temps de la même manière. Et ça, je dois le dire, vous voyez, un peu méchant. Ça, mais c'est un débat qu'on a avec Sylvie et avec d'autres depuis longtemps. Je me dis, ça me renvoie à la difficulté qu'on a, nous, dans des facs pas parisiennes. Je ne dis pas de province, ce mot est horrible. Mais des facs ailleurs, quoi, à faire reconnaître des terrains qui sont locaux, comme étant des terrains pour en parler dans un sens universaliste et généralisateur. Donc, c'est aussi une mise en garde, une mise en conscience. Est-ce que les terrains parisiens, ça va être plus universel que d'autres?
Non, voilà.
Et du coup, l'anonymat d'un terrain, d'un lieu, est-ce que ce territoire, il parle pas par lui-même, quoi? Il n'a pas ses spécificités?
Oui, mais l'anonymat, c'était pas cacher les spécificités du territoire. Je réponds juste là. C'était juste une façon de préserver aussi les enquêtés, que les gens soient pas désignés. C'est ça que je voulais dire.
Non, l'anonymat du lieu.
Mais le lieu, après, quand je le décris, j'en garde les caractéristiques économiques et politiques.
Tout est indiqué.
j'ai pas changé les choses pour qu'on ne le retrouve pas. D'une certaine manière, j'ai pas préservé complètement la confidentialité, c'est juste que j'ai donné un autre nom qui permet de savoir si on est en Seine-Saint-Denis, en Haute-Seine, à Créteil, ou voilà. Mais c'est tout ça. Et après, je continue parce que je réponds sur ça. Sur la question de la représentativité, moi, ma réflexion sur l'ethnographie, c'est de penser que la question n'est pas tellement celle de la représentativité. Ce qui compte, c'est que ça se passe comme ça, quelque part, et que ça vaut le coup de réfléchir à ce qui se passe là, tel que ça se passe. Voilà. Après, moi, j'avais au départ pensé faire d'autres terrains, c'est juste qu'après, il n'y a pas eu de. J'ai pas eu le temps. En ayant déjà à la fois la partie naturalisation et politique de lutte contre les discriminations, je me suis rendu compte que c'était déjà un terrain. Ça supposait de faire plusieurs enquêtes dans plusieurs institutions. Et dans le temps imparti pour une thèse, c'était pas possible d'aller dans d'autres lieux, pareil. Voilà.
On profite pour faire les réponses comme ça.
Ah, je continue de répondre. Alors, sur les cérémonies de naturalisation, en fait, à l'époque, là, je sais pas ce qu'il en est, mais à l'époque, ça faisait une différence entre droite et gauche, c'est-à-dire qu'il y avait peu de mairies de droite qui faisaient des cérémonies, puisqu'en fait, les cérémonies de naturalisation, elles ont été mises en place au tout début des années 2000. C'était les préfectures, et après, les mairies avaient le droit, par délégation de pouvoir, d'en organiser. Alors, par exemple, il y a quelques mairies au départ, hein, au moment, là, je parle vraiment du moment où j'ai fait mon enquête, c'est-à-dire entre 2004 et 2009. Je sais que la mairie du 17e, qui était tenue par Françoise de Panafieux, organisait des cérémonies. Donc ça arrive que des mairies de droite organisent des cérémonies, mais la plupart du temps, c'était plutôt des mairies de gauche qui ont, dans un premier temps, pris ça en charge. Après, il y avait eu un rapport réalisé sur ces cérémonies d'entrée dans la nationalité. Et donc, il y avait des extraits de discours. Et sur la base de ces discours prononcés dans différentes mairies, ce que je vois, mais encore une fois, donc c'est sur un échantillon limité, c'est que il y avait peut-être plus la rhétorique de l'honneur qu'on vous fait de vous accueillir dans la nationalité, la dignité de devenir français, etc., qu'on retrouvait à la fois dans le discours préfectoral et dans des mairies, disons, de droite. Il y avait peut-être moins de... Je dirais pas qu'il n'y avait pas de jeu sur d'efforts sur la convivialité et la chaleur dans ces cérémonies, mais il y avait en tout cas la reprise d'un discours sur la grandeur de la République qui s'apparentait beaucoup plus à celui qu'on pouvait entendre, que moi je pouvais entendre en préfecture. Et après, comment mon travail est perçu dans l'enseignement? Bon, moi je commence juste là à présenter mon livre. Je me suis dit que j'allais peut-être tenir un petit carnet de terrain et que ce serait intéressant de voir comment les choses se passent. Pour le moment, c'est dur. C'est dur. C'est dur de dire exactement comment il est perçu. Je peux avoir quelques éléments sur le fait que, par exemple, un peu comme pour les travaux sur le genre, quand il y a des résistances à ça, on peut arguer du fait que c'est pas assez prouvé, que oui, d'accord, c'est de l'ethnographie, mais quand même, voilà, il y a des choses comme ça auxquelles j'ai pu être confrontée. Mais ça reste imperceptible. Après, ça peut aussi ça apparaître dans le temps, mais enfin, il y a d'autres facteurs aussi, dans le temps qu'on peut mettre à se faire recruter. Enfin, je ne sais pas du tout. C'est des... mais maintenant que j'ai le livre et que je le présente, je peux, pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une bonne réception. Mais je verrai.
Il y avait d'autres questions? Oui,
Laura. Oui, moi, je vais. Merci déjà. Voilà, c'est que tu as évoqué, fait un peu écho à mes travaux qui passent sur en réalité à nouveau l'accès à la nation par la famille, par le mariage, par cette voilà, pour les super différents, voilà, mais plutôt pour l'accès au territoire avant encore que la naturalisation. Mais je trouve qu'il y a des concepts qui reviennent et la question de la discrimination qui est vraiment un peu caché derrière, mais qui n'émerge pas réellement. Et moi, je suis plutôt travaillée sur un côté usager, donc personne qui s'adresse aux administrations et les gens. et association. Et voilà, je pense que tu as, bah, l'ethnographie permet d'avoir une espèce de, voilà, un panorama complet de ce qui est de la situation. Et donc je serai intéressée à comprendre l'effet de tous ces discours sur la naturalisation, sur la discrimination et sur ces changements, sur les personnes qui s'adressaient à ces administrations. Si tu as pu capturer des discours, si tu as pu capturer des effets, à la fois soit sur des, enfin, ça allait sur des stratégies, des usagers, mais vraiment sur quel effet ces discours-là produisent, sur qui s'adressent à les administrations et sur qui utilisent ces politiques d'une certaine manière. Et comment, en réalité, après, ces places, ces acteurs, tu as vu que c'était peut-être parfois très lié à quelque chose de concret. Et voilà, plutôt pour des compétences, prendre des looks d'acteurs associatifs, plutôt qui s'est trouvé à. Enfin, jouer plutôt sur question de travail, peut-être des compétences. Moi, je suis plutôt sur intégration que sur discrimination, donc. Mais comment tu penses que ces politiques-là aussi, et les changements, vont impacter aussi sur ces acteurs associatifs et comment tu peux. Je sais que c'est énorme la discussion, mais si tu peux tracer 2-3 points pour définir
Les stratégies des acteurs associatifs.
Oui, comment ces acteurs associatifs, ils se positionnent là au milieu, à la fois pour être aussi, si on veut, ces facilitateurs de d'une dénonciation des discriminations, par exemple, effectivement, de base. Et en voyant qu'essentiellement, dans notre situation, bah, les personnes ne dénoncent pas des discriminations de la manière plus classique, ont du mal, surtout quand on sent encore. Avant d'avoir passé ces étapes des accès au séjour, des accès, donc ça m'intéresse de voir ces derniers.
D'accord.
J'avais encore une question. Je suis un peu d'accord avec la question de Célia, parce que tu as parlé des participations observantes. Et je me retrouve dans ça. J'avais fait ma thèse, j'en avais parlé, et j'avais eu des retours différents de ça, comme quelque chose qu'il ne faut pas trop mettre en avance parce qu'on n'est pas assez objectif. Donc, si tu as eu des critiques sur ça, comment tu gères cette question, effectivement, qui est méthodologique d'une certaine manière et pas justement ok seulement de là, juste être dedans, vraiment.
Il y avait une question au fond.
Oui. Bonjour, merci d'avoir. Alors j'avais plusieurs questions. La première, rapidement, c'est que vous aviez dit en introduction que vous avez souhaité à la fois tenir, alors j'ai pas lu le livre, c'est pour ça que c'est simplement par rapport à vous, tenir à la fois le point de vue institutionnel, donc l'encadrement par l'État, et les individus sur la façon dont ils se saisissent de ces lieux, et peut-être les formes d'appropriation qu'ils mettaient en œuvre, comme vous avez eu moins le temps de revenir dessus, on a si vous avez quelque chose à rajouter. Ensuite, en fait, vous parlez donc de discrimination raciale et je me demandais à la fois du point de vue au moment de la mise en œuvre de la politique publique, vous n'avez pas fait de différence en fait entre justement les différents flux migratoires que ça pouvait concerner et vous avez fait référence dans les exemples en disant une fois vous faisiez écho à quelqu'un qui était noir et une fois à quelqu'un qui était musulman. Donc, vous n'avez pas du tout parlé par exemple d'autres communautés. Et d'origine nationale. Et je me demandais justement si, à la fois dans le texte tel qu'il était sorti, il y avait cette question de cibler des populations spécifiques. Et si, deuxièmement, vous, dans les observations de clichés, vous aviez observé les différences de traitement selon les personnes qui étaient accueillies. Et voilà. Et voilà, enfin, par rapport à juste à l'histoire un peu plus longue de la France, c'était pas que c'était juste cette politique publique, mais de tous les migrateurs spécifiques. Voilà. Et enfin, vous parlez donc de. Vous avez étudié donc les politiques de discrimination raciale et notamment l'importation de ce terme-là des sciences sociales dans ensuite le discours public, la manière dont cette notion de discrimination, vous avez dit rapidement que. Ça a été formé par un groupe de chercheurs en sciences sociales.
C'est pas tellement le terme, hein, c'est plutôt la façon de se formuler le problème.
Voilà, oui, justement, en tant que concept, moi, de. Non, et bon, bref, et donc moi, ce que je vous demandais, c'est que vous avez dit à un moment que c'était une formulation particulière, et dans la, quand vous me parliez, là, vous repreniez parfois. Ça comme une vérité, c'est-à-dire ils sont victimes de discrimination raciale. Et je me demandais pour vous, qu'est-ce que vous penseriez de l'usage à la place l'opportunité d'utiliser le terme de domination, parce que je sais que le champ de, enfin, en tant que disons l'usage en sens de discrimination, elle est contestée par.
Est-ce qu'il y a une autre question peut-être à prendre dans la foulée? Ou deux? Alors, Sylvie. Merci,
cette belle compréhension, communication et ainsi que nos discussions, nos discutants, pardon, et les discussions qu'on a dans la salle sont très très stimulantes. J'avais. Il me semble que je sais pas en fait si finalement la question qu'avait posée en introduction Théotine.
Ah non, j'ai pas. Oui, c'est la
première. Il y avait une question qui était sur l'enfouissement, de la question de la race. Cette question, ça a été. Et en quoi ça avait finalement suscité ou pas une nouvelle forme de mobilisation antiraciste, hein, ça a été. Un petit peu moqué, peut-être revenir un petit peu là-dessus. Et deuxième chose, c'était un point sur l'articulation entre l'enquête ethnographique et les grosses enquêtes de type INED qui sont menées actuellement. En quoi elles sont complémentaires, en quoi elles ne le sont pas. Voilà, c'est peut-être un retour sur la méthode et puis sur l'articulation entre une démarche ethnographique et une démarche plus globalisante sur cette question de la race.
Peut-être Laurent pour finir.
Ouais, c'est un peu décalé, mais. Merci pour cet exposé. Je l'ai trouvé très brillant sur la forme, mais il me pose quelques petits soucis sur le fond. Et comme je pense, très gentiment, hein, en toute confraternité, je vous dirai. Le problème que j'ai rencontré, c'est d'ailleurs le même que celui que j'ai eu avec une de mes doctorantes récentes qu'on a évoqué, qui est en gros la distance. Qui me pose problème entre l'empirie et la théorie. Et l'impression que j'ai à plusieurs moments de plaquage théorique sur des données empiriques qui ne serait qu'un prétexte pour vérifier la théorie. Qui, moi, personnellement, me pose un petit souci, quel que soit le sujet. Alors, je vous explique ce qui m'a donné cette impression, puis après, je vais poser une question qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je précise évidemment que je ne fais que vous entendre, je n'ai pas lu le livre. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Vous avez passé beaucoup de temps, encore une fois, c'était évidemment exposé, hein, mais à nous parler de votre terrain d'élus, finalement, non, dans la discussion, là, vous l'avez très peu utilisé après. Vous nous avez dit rapidement que quand on étudie des personnels, vous faites une typologie, il y a au moins trois catégories. On n'a finalement pu en ressortir qu'une seule, celle qui sert le propos global.
Dans ce que je dis là.
Oui, dans ce que je rappelle dans l'exposé. Celle qui sert le propos théorique et son caractère, à mon sens, un peu trop dénonciatoire. Mais par exemple, il y avait un groupe bienveillant que je connais bien, parce que moi, par ailleurs, en agent privé, comme citoyen et donc, j'ai participé à ces combats antiracistes. Mais comme professionnel de la recherche, c'est une autre posture. Vous nous avez parlé d'une municipalité, mais qui finalement disparaît. Alors, quand vous êtes sur les objets de naturalisation, ça se comprend. Parce que là, pour le coup, on est là qu'on est passé une prérogative étatique préfectorale. Par contre, le sujet de la lutte contre la discrimination, c'est un sujet totalement partenarial au niveau des politiques publiques. Alors, du coup, c'est pareil dans votre exposé, c'est sûrement différent dans lui, mais dans l'exposé, vous n'en avez pas parlé. Or, la mise en œuvre, et du coup, l'observation et les terrains qu'il y a derrière, c'est aussi une des dimensions de la politique de la ville, depuis longtemps, c'est véritablement tous les partenaires. Donc, ce sont deux objets en réalité très différents. Très différents. Et notamment derrière sur les dispositifs de terrain qu'on est pour les observer. Donc, ça m'a posé également souci. Même la petite remarque, alors c'est pareil, je l'ai fait l'entendre, je n'ai pas lu ne serait-ce que l'introduction du livre, même la petite remarque sur le fait que dans une réunion tout le monde se retourne quand on parle de laïc vers la jeune fille d'origine maghrébine en livre comme si, évidemment que c'est une assignation identitaire, mais est-ce que c'est la manifestation d'un processus de racialisation? Je ne suis pas dit, il faut le prouver, pas du tout. Si on va se mettre à parler d'une fête religieuse italienne, tout le monde va se retourner vers notre ami Chazaret, comme si fatalement il devait connaître par cœur cette histoire-là. Bon, c'est fatal. À la limite, en poussant un peu le bouchon, quelqu'un va se mettre à parler de sociologie de la délinquance, vous l'auriez fait dans votre exposé. Tout le monde aurait demandé jeter un coup d'œil pour voir comment je vais essayer. Bon, c'est tout ça pour dire que les processus d'assignation identitaire.
Mais là, c'est votre compétence. Sans doute. Là, c'est pas ta compétence.
Non, mais c'est ma compétence. Oui, là, c'est ma compétence, je suppose. Ok. Mais, alors, je prends l'exemple italien. Vous voyez, bon,
c'est pour dire que. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit pas complètement.
On suppose que. Et c'est pour dire qu'une assignation identitaire, il n'y a rien de plus banal, quelque part. À tous les niveaux de la société, dans toutes les sociétés. La construction racialisée, c'est autre chose, c'est une forme très particulière. C'est un deuxième plus. Non. Juste pour dire qu'il ne suffit pas de l'évoquer en sens comme ça pour que ça le démontre. C'est plus lourd que ça. Sinon, il y en aurait. Enfin, quelque part, c'est trop banal. Mon société ne vit que de ça, au fond d'une série d'assignations identitaires, d'anticipation, de réaction des autres, de catégorisation, c'est une très grande banalité en fait. Donc c'est ça qui me gêne, et je pense que, alors c'est en partie lié, vous vous référez, et c'était le cas aussi de Rachida et de Corinth, qui allait systématiquement chercher des références dans les courants anglo-saxons récents. Alors c'est peut-être le côté un peu papy qui va parler chez moi, mais pour avoir été donc à la fois comme citoyen, mais aussi comme étudiant, plus jeune professionnel, pour avoir bien connu les années 80, heureusement qu'on n'a pas attendu la fin des années 90 pour avoir des outils pour penser tout ça. Vous voyez, dans les années 80, bah, nous, on lisait Michel Dvorka, on lisait François Dubé, on lisait Guy Laperoni, on avait lu Némi avant, on lisait aussi des historiens, on lisait Le Creuset français de Charles Bourdieu, on lisait La Thèse de Patrimoine, on avait déjà beaucoup de choses pour penser tout ça, mais peut-être justement moins, de manière un peu moins fermée, je dirais, un peu moins plaquée du coup. Enfin, bon, c'est l'impression que j'ai eu. Alors, j'en reviens à ce qui, moi, m'intéresse le plus, et au fond, ce à quoi je m'attendais, mais encore une fois, je rappelle, j'ai pas lu votre livre, et j'ai trouvé tout ensemble, c'est certain, mais c'est vraiment de se plonger dans l'empirique, pas de me raconter des choses qu'au fond, peut-être bêtement, hein, j'ai l'impression de savoir depuis longtemps, sans me référer à ces quelques travaux récents. C'est plutôt d'observer donc, dans l'empirique, sur un terrain, vous avez dit entre 2004 et 2009, très précisément, comment les événements politiques qui sont survenus à ce moment-là sont venus impacter la façon dont sur le terrain se fabrique tous les jours, à travers les parties professionnelles que vous avez évoquées, ces questions-là. Je l'ai vu par d'autres travaux, et par ailleurs par mon activité de militant personnel, je l'ai vu se faire dans la période d'avant, celle que vous n'avez pas observée, c'est normal. Moi, je l'ai vu se faire avant. J'ai vu l'impact des tournants idéologiques que vous avez signalé à juste titre, au moment où tout le monde se prend. Hein. Le dernier effort, véritablement, pour avoir des politiques de gauche, on va dire, qui s'affairent à l'idéologie de gauche, qui en découle quelque chose, avec la tension interne qu'il y avait entre Chevènement, bien sûr. Après ça, bon, disons les choses, après ça, on a assisté dans ce domaine comme dans d'autres, c'est une terre que je connais bien, à une victoire intellectuelle, on va dire, des idéologies de droite. Et une relative continuité, parce que le changement Hollande-Valls, il n'y a que le changement que le mot, et le changement de Macron, on n'en parle même pas. Donc je pense qu'il y a une grande continuité, malheureusement, évidemment, de nos citoyens sur tout ça depuis. Néanmoins, entre 2004 et 2009, il y a quand même deux micro-changements dans les changements. Il y a, et vous l'avez évoqué à juste titre, les émeutes de 2005, qui là, en termes de réassignation identitaire, de faire produire des choses, il y a 2007, l'arrivée de l'identité nationale, d'un ministère de gauche, etc. Donc ma question est celle-ci, qu'est-ce que ces deux changements précis que vous pouvez observer au moment où vous êtes sur le terrain, et qu'ils ont des répercussions de diverses manières, formelles, informelles, etc., dans les pratiques des agents que vous avez observés?
Il nous reste 10 minutes pour répondre à l'ensemble de ces questions.
Oui, je vais commencer par la fin. Alors, sur les changements qu'ils apportent, moi, c'est en effet ce que je pouvais, pour parler juste de ce que j'ai vu dans les bureaux de naturalisation, par exemple, puisque mes observations étaient à cheval entre le moment, la fin du quinquennat Chirac et là de Sarkozy, c'est qu'on pouvait voir aussi dans les pratiques, comment en certains cas, les pratiques précède ce à quoi un changement politique va donner de l'écho. C'est-à-dire la façon dont les agents, dont certains agents pouvaient en appeler à ce que j'ai appelé une conception univoque de la nation, c'était présent, mais on sentait dans la posture, à plusieurs reprises, une façon de se sentir plus légitime. Dans l'invocation de cette posture, et a fortiori après quand Sarkozy est passé, qu'il y a eu le ministère de l'identité nationale, etc. Du côté des émeutes, ça pouvait se percevoir aussi dans une certaine libération de la parole. C'est un entretien que je cite au début du deuxième chapitre d'ouvrage avec le préfet délégué à l'égalité des chances, qui était en fait un préfet qui a tenu des propos qui n'a pas voulu que j'enregistre l'entretien et qui m'a expliqué qu'en fait, il y avait un vrai problème avec l'immigration, notamment avec les personnes venant d'Afrique subsaharienne, et qui prenait comme exemple un peu sur la thématique des problèmes posés par les familles polygames et que ça donnait des émeutiers, qui a pris cet exemple-là pour asseoir son discours. Là, c'est un exemple un peu anecdotique que je donne, mais par ailleurs, c'est-à-dire que ça a donné, après la diffusion de ces discours dans la presse, a donné dans les réunions auxquelles j'ai pu assister, que ce soit à la COPEC, etc., une force nouvelle à cet argument, par exemple, à la question de l'organisation familiale problématique. De groupes qu'on désignait comme des groupes immigrés et qui étaient aussi surtout des groupes racialisés. Donc voilà, après sur l'usage des références théoriques, j'ai axé mon exposé sur des références anglo-saxonnes parce que je suis partie du principe que c'était peut-être ce qui avait le plus à expliciter en parlant en utilisant la notion de racialisation. Et il va sans dire que le creuset français, Patrick Veil, Alexis Spire et toute la sociologie française est extrêmement présente aussi dans mon travail. Et c'est les gens avec qui j'ai été formée en partie et qui ont été des interlocuteurs pendant tout mon travail de thèse. Donc là, c'est un effet aussi de présentation parce que je parle quand j'essaye dans ma présentation j'essaye de axer sur les choses qui sont peut-être moins évidentes ou moins tout simplement moins connues. Après sur la mairie, en fait c'est sûr que la mairie n'a pas de prérogative en matière de naturalisation, mais par exemple sur les cérémonies de naturalisation qui ont été au moment de mon débat le moment par lequel ce par quoi je suis rentrée sur le terrain et sur la question de la naturalisation, c'était plutôt à la mairie que ça se passait, beaucoup plus qu'en préfecture, parce que justement, la mairie avait pris en charge l'organisation de ces cérémonies. Et après, sur la dimension politique de la ville, c'est quelque chose qui est dans ma thèse, que j'ai enlevé de l'ouvrage, mais bien sûr aussi bien dans la circulation, d'ailleurs, ça, c'est un travail qui faisait écho entre ce que je dis dans le chapitre 1 sur... Les lieux de recherche où a émergé une politique, une question des discriminations et qui ont donné une légitimité à cette notion et qui ont fait passer ça du côté politique. Et le deuxième chapitre qui portait dans la thèse sur la politique de la mairie, c'est que c'est aussi des lieux, je pense par exemple à tout ce qui s'est fait autour du Cadis, c'est aussi des lieux où on a énormément réfléchi et donner des instruments aux politiques de la ville. Je pense à ce que montre Sylvie Tissot dans son travail. En effet, il y a ça, mais c'est pas présent dans l'ouvrage, mais c'était présent dans mon travail de thèse. Voilà, et après, sur la description fine de l'ethnographie, là encore, il me semble que c'est un effet de la présentation... de la présentation orale, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus dans le temps qui m'était imparti. Mais je vous invite à regarder l'ouvrage. Voilà. Et puis alors, j'en profite pour faire une transition avec sur la question inade ethnographie. Ce que je vois là, moi j'ai pas travaillé sur l'enquête Théo, mais j'ai en étant à l'INED pendant cette année.
Il y a eu l'enquête sur. Il y avait une grosse enquête, vous avez cité une grosse enquête. C'était l'enquête Théo ?
Non, c'est le projet où, ANR où j'étais postdoc jusqu'en septembre, c'est Globalize. Mais là, c'est une approche. Alors, il y a un questionnement sur les catégories de la statistique dans différents contextes nationaux et la façon, et comment c'est lié justement à la façon dont on propose les questions. Mais après, il n'y a pas d'enquête statistique dans ce projet-là. En revanche, il y a eu l'enquête trajectoire et origine. Il y a l'enquête trajectoire et origine numéro 2 qui se prépare. Ce qu'on voit, moi ce qui me semble, là où c'est complémentaire, c'est que justement à travers l'approche statistique, ça permet, je veux dire c'est évident, d'objectiver, mais dans le cas des discriminations raciales et du fait qu'il n'y ait pas d'outils statistiques que c'est très compliqué de mesurer la question, la réalité des discriminations, en tout cas que les pouvoirs publics n'offrent pas de statistiques sur la question. C'est un outil crucial, en fait, ce genre d'enquête, parce que justement ça permet de sortir d'un discours où on est juste sur des cas et pas où effectivement on peut toujours être amené à notre ressenti, à la manière dont l'autre fait le récit de son expérience, etc. Donc en effet, des enquêtes comme Trajectoire et Origine sont oui, cruciales, je dirais. Alors sur la question de l'enfouissement et du nouveau mouvement, des nouvelles formes de mouvement antiraciste, c'est des choses récentes sur lesquelles moi j'ai pas travaillé, à part dire que peut-être à force d'enfouissement ça a poussé justement des gens qui étaient soumis à des formes d'assignation racialisante de thématiser plus politiquement leur expérience à un moment d'exacerbation, en fait, produite aussi justement par le débat sur l'identité nationale, la banalisation d'un discours racialisant dans le champ politique. Ça a peut-être concouru, enfin sûrement concouru à ça. Après, voilà, je peux dire ça en observant ça un peu de l'extérieur, mais pas sur la base d'un terrain. Après, sur les questions appropriation par les usagers, oui, c'est une partie de mon travail, notamment sur la naturalisation, notamment sur la façon dont les personnes naturalisées se reprennent à leur compte en déplaçant des fois un petit peu les catégories de l'administration, que ce soit toute la thématique du mérite. Mais d'une manière qui est qui en fait du côté de l'administration et de l'État, comme je le disais, la question du mérite des personnes naturalisées est articulée à la définition de la naturalisation comme une faveur. Et donc on va mettre à l'épreuve des personnes pour voir si elles sont méritantes et leur octroyer de façon non pas exceptionnelle, mais en tout cas qui n'est pas censée être souveraine et discrétionnaire, la nationalité française. Ce qui était frappant dans la manière dont les personnes naturalisées reprenaient à leur compte cette thématique du mérite, c'était dans un discours qui joue de la distinction, à la fois avec les mauvais étrangers ou les Français qui ne devraient pas être Français. C'était à peu près ça les deux figures d'opposition, pour montrer que ces personnes naturalisées méritaient, si elles méritaient de devenir françaises, c'est parce qu'elles avaient les qualités pour faire valoir un droit. Et donc le déplacement, c'était que la reprise d'une rhétorique du mérite faisait pencher dans le discours des personnes naturalisées la naturalisation du côté d'un droit qu'on peut faire valoir. Voilà pour l'une des réappropriations peut-être les plus frappantes du discours de l'administration. Après, moi j'ai retrouvé aussi dans des entretiens réalisés avec des personnes naturalisées la question de... je pense à un couple d'origine algérienne où la femme m'expliquait que... Alors, ça, c'est un trait qu'on retrouvait chez plusieurs personnes, qui est de montrer en fait qu'on a toujours eu la même vie, que c'est pas que, en fait, c'est juste qu'on a mis en correspondance le droit avec le fait. Donc ça, il y a une espèce de l'affirmation d'une continuité, de pas penser la naturalisation sur le plan individuel et personnel comme un avant, un après, même si du point de vue des droits, il y a un avant et un après. Mais par exemple, sur la reprise aussi d'un discours de l'administration sur l'islam, par exemple, cette femme essayait de me montrer qu'elle, dans sa vie, elle venait d'un milieu très occidentalisé d'Alger, qu'ils avaient toujours, par exemple, bu, consommé de l'alcool à table, même devant sa mère, qu'elle et ses sœurs portaient des jupes courtes, etc. Et on sentait, alors peut-être aussi parce que moi, dans mes questions, je reprenais à mon compte, enfin sans m'en rendre compte sur le coup, des questions qui avaient pu être posées par les agents du service de naturalisation. C'est-à-dire que quand je demande aux gens quand est-ce qu'ils sont arrivés, pourquoi ils ont demandé leur nationalité française, je suis en train de reposer des questions qui leur ont été posées par les agents. Donc elle a aussi peut-être tout simplement rejoué l'entretien d'assimilation linguistique. Mais en tout cas, ce qui était frappant, c'était de reprendre la reprise à son compte de certaines thématiques, notamment autour de la manière de vivre, qui permettaient de montrer pas de colonie. Voilà. Et sur domination au lieu de discrimination, j'ai l'impression que il y a un peu un faux problème, c'est-à-dire que on peut parler des deux, d'une part, ça désigne pas exactement les mêmes processus. Moi, je serais pour une manière de penser la discrimination, de partir vraiment de la définition juridique de ce que c'est qu'une discrimination, quitte à voir après quels effets ça a sur les individus, et c'est pour ça que je parle aussi d'assignation. Et ça n'exclut pas, dans certains cas, de parler de domination. Je trouve que c'est regrettable aussi d'être dans une lecture disjonctive, en fait, et de voir l'une comme menaçant l'autre. C'est comme quand on pense que si on parle de genre et de race, on va plus parler de classe, alors que les enjeux sont entremêlés. Voilà, mais c'est vrai que, en fait, il y a eu pendant tout un moment aussi un doute sur la légitimité scientifique à parler de discrimination. Parce que c'était censé venir justement du discours peut-être plus des pouvoirs publics ou des associations, etc. Bon, voilà. Les effets sur les usagers, ben du coup j'ai un peu répondu. J'ai eu beaucoup plus de mal à avoir des choses de personnes sur la question vraiment du vécu des discriminations raciales. J'ai fait du terrain, donc je disais là dans sans insertion professionnelle pour des jeunes, et le premier terrain était quelques mois après les émeutes de 2005. Alors par exemple, voilà, quand ils parlaient de leur participation ou non à ces émeutes, il y avait des choses liées au rapport à la police ou au rapport à la justice, mais j'ai eu peu d'effets après, aussi parce qu'il y a peu de recours au droit dans ces cas-là, donc voilà. Et alors sur la participation observante,
très rapidement.
Et je finis, juste ça, sur la participation observante, moi j'ai été dans la même crainte, c'est-à-dire que pendant longtemps, je n'osais pas trop dire. Après, je pense que la question de l'objectivité, c'est aussi, d'une certaine manière, un faux problème. On est tous pris dans des positions dont il faut... qu'il faut éclaircir et voilà, que ce soit parce qu'on a conscience, vit de l'intérieur une procédure, ou au contraire parce qu'on n'en a pas du tout de vécu direct, dans les deux cas il y a un travail d'objectivation à réaliser. Voilà, après ça continue, moi c'est des choses, selon les contextes, il faut aussi avoir le temps de pouvoir expliciter la manière dont on objective. Donc des fois aussi, quand j'ai pas le temps, je passe plus vite ou je le lis pas, mais je crois qu'en tout cas il n'y a pas de, l'enjeu c'est pas de, que ça fait une recherche moins objective, si tant est qu'il y ait des recherches objectives. Voilà.
Merci.
Et pour toutes ces questions.
Une petite question,
Ah non, c'est pas moi, c'était dans la question. C'est moi.
Dans la question, voilà. Je voulais savoir quelles précautions d'utilisation, finalement, vous pouvez nous donner à tous dans l'utilisation de ces
termes.
Un petit glossaire.
Simplement pour rappeler qu'on parlait d'enquête quantitative, que dans les années 90 à l'UNED, l'auteur Michel Trubala avait justement. Utiliser ce terme, il avait été repris par l'extrême droite, et donc je voulais savoir comment faire pour...
Moi je l'utilise à un moment quand je parle de l'identité nationale en conclusion, et je dis français qui se pense de souche. Après je l'utiliserai pas du tout comme une catégorie descriptive.
Français d'origine, on dit. possible.
Oui, mais c'est problématique aussi.
Ouais.
On peut dire aussi groupe, les membres du groupe majoritaire.
Si, en tout cas, je pense que la longueur des discussions montre la densité de cette séance. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Deux choses avant de vous laisser partir. Juste vous dire aussi que il y a un ouvrage collectif que Sarah Mazouz a co-dirigé avec d'autres auteurs qui sortira en 2018 et qui s'intitule Entre accueil et enfermement, ce que les villes font aux migrants. Donc deux thématiques qui nous intéressent particulièrement à la messe. Et puis vous rappelez notre prochaine séance le 10 novembre où Marc Bernardo nous fera une présentation de ses travaux avec pour titre Sociologie de la liquidité, métaphore et société contemporaine. Voilà, merci.